mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde sur Radio Escapade en ce mardi 19 mars. Avant de se plonger dans l'actualité bouillante de ce mois de mars, que ça soit sur le plan de la mobilisation sociale ou des violences urbaines ou des luttes écologiques, un petit peu le triptyque habituel, on va relayer un appel à une collecte sur le site Hello Asso. Une collecte car elle est liée à l'actualité, en tout cas une actualité dont je vous ai parlé pas mal ces derniers mois et années, de lutte des travailleurs détachés dans l'agriculture. Vous vous souvenez ces gros procès de notamment de Terra, comment ça s'appelait déjà, je sais plus, l'entreprise, bah d'ailleurs je l'ai perdu, à Laboral Terra, voilà. C'est tous ces travailleurs agricoles qui sont pas très loin de nous, hein, entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, là sur la plaine de la Croix notamment, dans des conditions de travail, voire limite d'esclavagisme. Il y a eu des procès. Mais malheureusement, les victimes qui ont souvent été à l'origine de ces procès, donc qu'on appelle des lanceurs d'alerte, et ici le cas de lanceuses d'alerte, puisque ce sont des femmes, bien ces victimes ne touchent pour l'instant pas un centime, et c'est même pas dit qu'elles en aient un jour, donc elles se retrouvent dans des situations de précarité extrême. Le communiqué vient donc du CODETRAS, ce collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangères dans l'agriculture du sud-est de la France. C'est donc cet organisme qui lance une campagne de soutien à Yasmine Telal. C'est l'une de ces lanceuses d'alerte à l'origine, notamment de la dénonciation du travail détaché en agriculture. C'est le fait de pouvoir embaucher sur des périodes courtes des travailleurs étrangers. Et donc, ils ne cotisent pas, ils n'ont droit à aucun élément du Code du travail français, puisqu'ils sont rattachés, là, dans ce cas-là, à l'Espagne, dans des conditions donc assez misérables, mais ce, de manière répétée, tous les ans. Donc c'est une des grosses violations au code du travail. Eh bien cette Yasmine Telal a lancé l'alerte, elle vit aujourd'hui dans une grande précarité. Ses années de combat ont d'ailleurs été récompensées de victoires juridiques, hein, au prud'homme et au pénal, notamment avec la reconnaissance de plus de 30 000 euros qui lui sont dus. Les entreprises ont été à côté de ça, eh bien justement condamnées par la justice française sur ce qui est des impôts et du droit du travail. Mais pour les personnes qui ont lancé l'alerte comme elle, eh bien elles se retrouvent blacklistées dans tout le secteur de l'emploi agricole, humiliés et avec une pression psychologique importante avec de graves conséquences sur leur santé, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est le cas notamment de Yasmine, Karima et d'autres compagnonnes qui vivent toujours aujourd'hui dans une vie suspendue avec ces décisions juridiques. Pour ce qui est du juridique, justement, en 2020, l'entreprise ETT Laboral Terra se déclare en liquidation judiciaire, ça c'est malin, après avoir été condamnée par le tribunal des prud'hommes. 3 ans de procès et de litiges supplémentaires ont donc été nécessaires pour clarifier les responsabilités dans le versement des sommes dues, dont les victimes n'ont toujours pas vu un centime. Il est très probable que les sommes accordées par la justice pénale ne soient encore une fois jamais réellement versées aux victimes, puisque ces sociétés écrans se réfugient, changent de pays, changent de nom et hop, essayent de se libérer comme ça de leurs contraintes judiciaires. Qui va payer ces 100 000 euros qui sont dus à ces 3 travailleuses? Une entreprise liquidée donc, qui n'aura même jamais versé les impayés qu'elle doit aux impôts français par exemple. En tout cas pour cette Yasmine, elle est toujours exposée et s'est battue avec un acharnement sans faille pour faire reconnaître donc son exploitation et celle de ses camarades, mais ainsi que d'autres milliers de travailleurs et travailleuses du secteur de l'agriculture. Contrainte de contracter des dettes aujourd'hui auprès d'une banque et de proches, notamment pour pouvoir avoir des soins médicaux, elle est grave en galère. D'où l'initiative donc de cette cagnotte pour l'aider à surmonter, entre autres, tout cela. Donc je vous donne le lien Hello Asso et vous allez vous taper CODETRAS, CODETRAS, et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à la hauteur qui vous conviendra. C'est l'occasion aussi de lire un petit peu toute cette affaire qui n'est pas finie, mais qui est pourtant très exemplaire et emblématique du secteur et des gros clivages qu'il y a dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui. Ce mardi 19 mars est placé sous le signe de la mobilisation sociale. Dans la fonction publique notamment, ou chez les infirmiers libéraux, c'est le salaire qui est au cœur des revendications. Urgence salariale, c'est d'ailleurs le mot d'ordre du communiqué qui a été déposé par 8 syndicats. CGT, FO, CFDT, CFE, CGC, FA, FSU, Solidaires et UNSA. Voilà, le communiqué pour demander donc grève aujourd'hui, ce mardi 19 mars. On peut lire notamment qu'il y a 10% des fonctionnaires aujourd'hui qui gagnent moins de 1508 euros net par mois. C'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui a rappelé ça ce lundi. Dans l'éducation notamment, une centaine de cortèges et de rassemblements sont prévus en France, auxquels sont appelés à participer les 5,7 millions d'agents de la fonction publique. Si ces organisations appellent les agents à se mobiliser par tous les moyens, y compris la grève, les perturbations devraient être plutôt limitées pour aujourd'hui, à l'exception donc de l'éducation nationale. En effet, ces travailleurs et travailleuses s'étaient déjà fortement mobilisés le 1er février dernier, avec 47% des profs qui avaient suivi l'appel à la grève. Entre-temps, on apprenait qu'environ 700 millions d'euros des fameux 10 milliards d'économies qui sont prévus par Bercy concerneront justement le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, donc, les enseignants et personnels de l'éducation nationale souhaitent profiter de cette date unitaire pour maintenir la pression sur le gouvernement et sur cette question, entre autres. Ainsi, le SNES-FSU, le premier syndicat d'éducation nationale, souhaite une augmentation des salaires, ainsi que l'abandon du choc des savoirs. Le choc des savoirs, on va en reparler dans pas longtemps. Il souhaite également que l'État réduise les effectifs par classe. Pour cela, bien sûr, il faut la création de postes pour faire baisser le nombre d'élèves par classe, assurer les remplacements aussi, et assurer l'enseignement spécialisé quand cela s'avère nécessaire. Ainsi, Sud Éducation ou la FSU SNUIPP, c'est le premier syndicat pour ce qui est maternelle et école élémentaire, pointe particulièrement du doigt les nouveaux groupes de niveau. Donc c'est ça l'histoire du choc des savoirs. Pour eux, les groupes de niveau et cette politique qui se met en place, loin de remédier aux difficultés scolaires, organisent de fait un véritable tri en fonction de l'origine sociale. Il y avait déjà eu, pour s'opposer à cette réforme du choc des savoirs, lundi 11 mars, des opérations Collège Mort, qui étaient faites à l'appel des professeurs pour impliquer donc plus les parents d'élèves aussi dans cette mobilisation. Plusieurs villes de France ont vu ce genre d'initiative mise en place et les enseignants demandent donc aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants chez eux afin de montrer le soutien au mouvement. C'est aussi une manière de ne pas faire grève. Les profs donc sont présents en classe et peuvent accueillir éventuellement les élèves qui ne peuvent pas être gardés par leurs parents. Voilà pour l'éducation. Pour ce qui est du secteur hospitalier, les 5 principaux syndicats de la fonction publique hospitalière, donc CGT, FO, CFDT, Sud et UNSA, eux aussi ont appelé à la grève. L'intersyndicale résume plutôt ses mobilisations dans ce communiqué. Il faut mettre un terme à la spirale de paupérisation de l'ensemble des personnels de la fonction publique et de la fonction publique hospitalière. Nous refusons de subir une nouvelle année blanche sans augmentation de salaire ni compensation de l'inflation. Pour le reste des fonctionnaires, donc, plusieurs syndicats laissent planer la menace d'une grève qui pourrait s'étendre lors des Jeux Olympiques. La CGT a annoncé le dépôt de préavis de grève dans la fonction publique sur cette période, du côté de la RATP aussi, avec sa branche CGT, et FO ne l'exclut pas non plus. Des mobilisations donc que les fameuses primes olympiques de 500 à 1500 euros qui ont été récemment annoncées par Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, n'auront donc pas suffi à faire descendre.
Je suis enseignant à Blessandrin 93. Évidemment que si je suis absent de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé.
Je suis élève à Blessandrin dans le 93. Évidemment que notre foyer a été ouvert une semaine en 2020 et qu'il est fermé depuis 4 ans.
Je suis élève à Blessandrin dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, j'ai pas de plafond au-dessus de moi.
Je suis prof de chimie dans le 93. Évidemment que j'ai 16 paillasses pour 20 élèves.
On a à Blessandrin, évidemment qu'on n'a pas de serviettes, pas de savon et ni de papier.
On a à Blessandrin, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond.
Une petite vidéo réalisée par des élèves et des professeurs du lycée donc Blaise Sandras à Sévran. On est en Seine-Saint-Denis, donc dans le 93. Et on reste dans la thématique du manque de moyens dans l'éducation nationale. Là, on parle carrément de lycées qui sont complètement abandonnés. Allez voir les petites vidéos avec ces jeunes qui font visiter justement leur lycée et qui montrent les conditions. Des fois, il n'y a même pas assez de tables pour tout le monde, ni de chaises. Cette vidéo donc a été publiée le 7 mars dernier et très largement partagée sur les réseaux sociaux. Elle a percé, comme on dit. Ce sont donc ces élèves qui dénoncent le délabrement de leur établissement. Absence de chauffage dans les salles de classe, plafond délabré, manque de tables de chaises, profs non remplacés. ces problématiques qui sont généralisées dans nombreux lycées de banlieue. À Cachan, par exemple, un des plus gros lycées d'Île-de-France, un blocage a eu lieu le 5 mars après qu'un bout de plafond se soit effondré, qu'une fuite d'eau ait eu lieu dans une classe et que des murs soient en ruine, que des salles soient privées de chauffage, entre autres. En parallèle, un mouvement de grève a eu lieu dans plusieurs établissements du 93 et certains enseignants cumulent les journées de mobilisation sans être écoutés. Mais en plus de tout cela, donc, la direction voudrait les faire taire. En effet, suite à cette petite vidéo faite donc au lycée Blaise Sandras, le 13 mars, tous les enseignants qui apparaissaient dans cette vidéo ont reçu une convocation, soit un entretien dans le bureau de leur proviseur, en présence d'un représentant de la DSDEN, la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale. Au cours de la convocation qui a eu lieu ce 15 mars, le lycée a été bloqué par les élèves en soutien donc à leur professeur, un rassemblement avec une casserolade et des huées. Sans surprise, cette convocation, c'était beaucoup de vent, une pure tentative d'intimidation. On est déterminé à continuer et à ne pas se taire. Il est important qu'on montre qu'on est solidaire, déterminé, alors qu'on cherche à empêcher des mobilisations, explique une des enseignantes concernées qui s'appelle Mélissa.
Soutien ! Soutien ! Soutien ! Les embrasses ! Soutien ! Soutien ! Soutien ! Les embrasses ! Soutien ! Soutien ! Soutien ! Les embrasses !
Notre vidéo a percé, bien évidemment qu'on est tous là pour soutenir nos profs.
Et on reste dans le 93, un 9-3 Connection, après la mort de Wanis, qui a été percuté mercredi par un véhicule de police après un refus d'obtempérer dans la commune de La Courneuve. Une marche silencieuse va être organisée par sa famille ce jeudi soir. Le maire de la commune, Gilles Pou, communiste, a annoncé ça aujourd'hui. Il a annoncé donc une marche silencieuse sera organisée ce jeudi soir suite à la mort du jeune Wanis mercredi dernier. Ce jeune homme de 18 ans, originaire donc de La Courneuve, a été percuté à scooter par un véhicule de police à Aubervilliers après un refus d'obtempérer. Le mercredi 13 mars, donc il est 20h30, le scooter du jeune Wanis de 18 ans et de son ami Ibrahim a été pris en chasse par un véhicule de police après un refus d'obtempérer au cours d'un contrôle routier. Les deux jeunes ont finalement été percutés par le véhicule d'une BAC, la brigade anticriminalité qui a été appelée en renfort, qui est arrivée en sens inverse. D'après le communiqué du parquet de Bobigny de jeudi dernier, qui se basait sur les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de l'équipage de la BAC était contraint de faire une embardée pour éviter un véhicule qui ne respectait pas une priorité, un taxi en l'occurrence, et qui entrait en collision avec le scooter qui arrivait en sens inverse. Le préfet de police Laurent Nunez abonde dans ce sens. À ce stade, je n'ai aucune raison de remettre en cause la version qui a été donnée par les policiers, ajoutant qu'il n'y a évidemment aucun acte volontaire. Pour l'avocat de la famille de Wanis, maître Yacine Bouzrou, avocat de la famille et du passager blessé, il accuse de son côté les policiers de l'avoir volontairement percuté, ce scooter. Les allégations du parquet sur une collision accidentelle liée au comportement d'un autre automobiliste paraissent fantaisistes et sont démenties par la vidéo, puisqu'en fait, il y a la vidéo de la route qui est là et qui permet de montrer ça. Effectivement, on voit qu'ils esquivent le taxi, mais tout cela à une vitesse très très moindre. C'était pas obligatoire a priori, tout le monde roule à une vitesse plutôt modérée. Donc ça semble a priori plutôt intentionnel, en tout cas pour les avocats de la famille. Ils demandent justement que la procédure soit dépaysée et ne soit pas jugée trop près, donc à Bobigny, puisqu'on est trop proche et qu'il y a peut-être des accointances. Les trois policiers qui étaient dans le véhicule impliqué dans cette collision ont été entendus pour l'instant en audition libre par les enquêteurs de l'IGPN. L'analyse des témoignages, rapports de police et de l'ensemble des vidéos se poursuit activement pour avoir de façon la plus objective possible les circonstances de l'accident et les instants qui les ont précédés. C'était la déclaration de ce vendredi 15 mars par le procureur de la République en Seine-Saint-Denis, Éric Mattet. Quoi qu'il en soit, la mort du jeune Wanis a provoqué de vives tensions dans le quartier de La Courneuve ce week-end, notamment dimanche soir, où le commissariat a été visé par des projectiles et des tirs de feux d'artifice. Quand on dit tir de mortier, je rappelle qu'il s'agit de feux d'artifice. Aux alentours de 22h50, une cinquantaine d'individus, selon le préfet, toujours, ont attaqué donc sur une trentaine de minutes le commissariat. Deux policiers ont été légèrement blessés. Il y a également eu des dégâts matériels avec des poubelles incendiées. Le retour au calme a été constaté aux alentours de 23h30, mais d'autres incidents ont éclaté sur les communes voisines de Creil et à Trappes aussi dans les Yvelines. Sept majeurs âgés de 18 à 21 ans et deux mineurs ont été interpellés. Les neuf gardes à vue ont été prolongés hier soir Et cette nuit, donc de lundi à mardi, a été plutôt calme, affirmait le maire de la commune. D'ailleurs, ce maire a rencontré la famille de Wanis, c'est ensemble qu'ils ont décidé d'organiser cette marche blanche de demain. Les parents sont complètement meurtris et déboussolés, d'après les mots donc, de Gilles Pou, le maire de La Courneuve. Ils savent que l'irréparable a été fait, pour autant ils ont un comportement particulièrement responsable, dit-il, avec la volonté de demander justice, mais de ne pas être dans une démarche de vengeance aveugle en appelant à des réactions disproportionnées. Saluez donc l'édile. Quelques réactions au niveau politique, plutôt à gauche. Personne ne devrait jamais mourir pour un refus d'obtempérer. La doctrine policière produit ces morts de façon structurelle. 16 morts en un an et demi. Nous le dirons encore et encore, il faut changer ce système. Ça, ce sont les mots de Bastien Lachaud, député insoumis de la circonscription qui inclut Aubervilliers. Philippe Poutou s'est fait remarquer aussi, l'ancien candidat à la présidentielle en 2022 pour le NPA. Il a soutenu carrément l'action des jeunes en disant « Soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 2023. » On n'a fait rien de grandement changé dans la technique de maintien de l'ordre. Les mêmes causes, a priori, produisant les mêmes effets. Le maire de La Courneuve s'est exprimé en faveur d'un apaisement. « Il faut aujourd'hui favoriser le calme malgré la douleur. » Le discours de cet élu mettait en avant le temps de la justice en disant « Il y a maintenant une seule urgence, celle de faire toute la lumière sur ce qui a conduit à l'irréparable. » Espérant que la lumière puisse se faire un jour sur ce genre d'affaires. Du côté de la préfecture de police, on a renforcé le dispositif policier pour éviter que la situation ne dégénère plus dans la commune. Et on a pu notamment voir circuler dans les rues, c'était assez exceptionnel, plusieurs modèles d'un tout nouveau type de blindé tout-terrain de l'armée, le blindé Centaure, qui est utilisé principalement normalement dans les zones difficiles d'accès, comme des territoires montagneux, forêts, et donc, a fortiori, dans tout ce qui est dom-tom. Voilà, quand on parle de gestion coloniale des banlieues, on en voit certainement le blindé. Deux enquêtes ont été ouvertes dans ce dossier, donc l'une pour refus d'obtempérer aggravé, qui a été confiée au service du traitement judiciaire des accidents. Bon, sauf que le petit Wanis ne sera pas là pour en témoigner. Et la seconde enquête avec le chef d'homicide involontaire et blessure involontaire confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on continue avec la gendarmerie, mais à la campagne un peu plus. Les gendarmes empêchent depuis un mois le ravitaillement des militants qui sont perchés dans les arbres du Tarn, ceux qui s'opposent à l'A69, les fameux écureuils dont on parle assez régulièrement. Afin de dénoncer cette torture, justement, les activistes manifestaient à Bruxelles hier, puisque ça fait 33 jours que ces écureuils sont perchés dans les arbres de la ZAD Crémarbre. On est sur la commune de Saïx dans le Tarn, avec comme objectif d'empêcher l'abattage de ces arbres, justement, qui sont sur le chantier du tracé entre Toulouse et Castres. Mais les activistes souffrent du manque de nourriture et d'eau, puisque les gendarmes empêchent leur ravitaillement. Afin de dénoncer donc ce traitement réservé à ces militants, deux autres de ces activistes sont montés à Bruxelles et se sont perchés hier dans un érable en face des bâtiments du Parlement européen. C'est notamment Ubac, qui est cordiste de métier, et membre du GNSA, le Groupement National de Surveillance des Arbres, qui se fait le porte-parole. « Nous sommes ici, dit-il, car nous avons épuisé tous les recours possibles. Nous frappons donc aux portes de l'Europe pour qu'elle se prononce sur les agissements de l'État français que l'on considère comme de la torture envers les militants écologistes, poursuit-il. » D'ailleurs, ce militant est resté lui-même 10 jours perché dans les arbres de Saïx. Il a dû en descendre à cause de problèmes cardiaques. Et il raconte donc ce que c'était que d'être perché là-haut. « C'est une guerre d'usure. La nuit, les CRS crient, nous insultent et nous empêchent de dormir. On doit se rationner en eau, en nourriture. Le corps lâche complètement face à un tel stress. » Et de fait, sur place, il ne reste plus que 3 de ces écureuils juchés sur 2 arbres. Le 4e a été arrêté ce dimanche en descendant justement chercher des sacs de nourriture. Pour se nourrir, les autres grignotent des bourgeons, boivent de l'eau avec un peu de sucre ou de sel. Nous demandons à ce qu'ils puissent être ravitaillés, réclame justement le porte-parole Ubac, devant le Parlement européen, car le temps presse et leur santé se dégrade. Notamment si l'un d'entre eux venait à faire un malaise, son baudrier lui couperait la circulation du sang dans les jambes et pourrait entraîner sa mort. Un des 3 militants qui reste perché là-haut, qui se fait appeler Reva, décrit son épuisement face à une énième tentative avortée de ravitaillement, c'était hier. Des amis ont réussi à passer dans un pré voisin. On s'est déplacé d'arbre en arbre pour parvenir à 5 ou 6 mètres d'eux. Les gendarmes ont attendu qu'on soit proche et ils ont gazé tout le monde. J'en ai pris plein la tronche, c'était violent, injuste et disproportionné. Et inhumain, je suis scandalisé, indigné, révolté. Il a été joint par téléphone par les journalistes de Reporters qui ont fait cet article. Les médecins n'ont même plus l'autorisation d'ailleurs de venir dans la nacelle des gendarmes pour surveiller leur état de santé. Et quant aux gendarmes, ils continuent leur politique d'usure, avec certainement des ordres qui les y incitent, hein. Ils ont coupé beaucoup de nos cordes, rappelle ce grimpeur. Ils nous mettent au maximum en insécurité pour qu'on les appelle afin de descendre. C'est pervers, vicieux et hypocrite. Malgré l'épuisement et le harcèlement policier, donc, les derniers militants espèrent rester jusqu'au 31 mars, puisque c'est la date qui marque la fin de la période d'abattage autorisée pour les arbres. Sauf que même après cette date, il y a de fortes chances pour que le concessionnaire de l'autoroute, Atosca, ne respecte pas la réglementation. Il préfère abattre et payer des amendes plutôt que de prendre des retards sur le chantier, assure toujours le militant UBAC devant le Parlement européen hier. En dépit donc de cette opposition pugnace des militants, c'est le moindre des choses de le dire, la construction de l'autoroute entre Toulouse et Castres se poursuit sans prendre de retard, toujours selon le concessionnaire de l'autoroute. 95% des déboisements ont été réalisés, expliquait le directeur de la société. La mise en service de l'autoroute est toujours prévue pour fin 2025. Ces pronostics quand même laissent les militants sceptiques. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il reste des maisons qui ne sont pas encore expropriées et des arbres encore sur pied qui ne pourront pas être coupés avant l'automne. On peut constater que le projet prend du retard. La question est de savoir combien, conclut ainsi un opposant.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Et on reste à la campagne avec des gens qui se battent, qui crient « On mange pas du gazon, on boit pas du béton, non, non, non » à ce projet bidon. Un des slogans entendus dans cette gros rassemblement manifestation qui a eu lieu ce samedi 16 mars avec des milliers de personnes présentes depuis toutes les Pyrénées orientales pour dire donc leur opposition à ce projet de méga golf. On est sur les berges du lac de Villeneuve, de la Rao, dans la première couronne, juste à côté donc, de Perpignan. Cette commune a pour les organisateurs donc, vu défiler autant de personnes qu'elle compte d'habitants, 4500, bon 1500 selon la gendarmerie, contre un projet qui s'approprierait 160 hectares avec 529 logements et le tout donc juste au bord du lac. Pour les manifestants qui étaient là ce samedi matin, qui ont donc réalisé une manifestation dans un joyeux cortège avec notamment pas mal de fanfares et des démonstrations de castels. Apparemment, c'est les pyramides humaines, ils ont l'air d'être assez forts là-dedans, dans les Pyrénées orientales. Donc pour tous ces manifestants, le projet, c'est clairement le golfe de trop. On est dans un département touché depuis 2 ans par une sécheresse historique. Les habitants et habitantes du coin donc, étaient là en masse, certains en famille d'ailleurs, et qui font un petit peu le parallèle entre ce qu'on leur demande à titre personnel et les projets qui menacent donc le secteur. Ainsi, cette famille qui explique qu'à cause des restrictions d'eau, ils ne remplissent plus la piscine, ne font plus pousser de légumes dans le jardin. Et la maman donc, de cette famille explique « On est d'accord pour faire ces efforts, mais pas pour qu'on utilise l'eau pour un golf. » Ce projet fédère assez largement contre lui, puisqu'une vingtaine de partis et d'associations ont appelé à la manifestation, qui a été organisée par les écologistes et le mouvement Unitat Catalane. Mais dans le spectre politique, on compte depuis le NPA jusqu'aux partisans locaux d'Edouard Philippe, pour dire à quel point il y a un certain consensus. La priorité, c'est de défendre les terres agricoles pour Victor Tublet, qui est éleveur en bio dans le centre du département, adhérent de la Confédération Paysanne. La FDSEA, elle, n'a pas appelé à venir à cette manifestation, mais certains de ses adhérents, eux, étaient présents. Les seuls défenseurs déclarés du projet, on peut quand même les citer, c'est le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui est au Rassemblement National, et le monde économique local, hein, toujours OK pour les projets, la Chambre de commerce et le MEDEF en tête. Et à noter aussi le maire Les Républicains de la commune de Villeneuve, de la Rao, où se tient donc la manifestation, et la maire, pardon, Jacqueline Irles, qui porte à bout de bras ce projet depuis 20 ans, malgré de nombreux recours. Cet élu assure que le golf ne puisera pas dans le lac voisin, il en a malgré tout l'autorisation, mais traitera aux UV les eaux grises de la station d'épuration. Un golf écolo, mais visiblement ça ne convainc personne. 92 universitaires d'ailleurs et chercheurs de l'université de Perpignan ont signé une tribune dans le quotidien local, l'Indépendant, pour dénoncer ce projet, qu'ils jugent hors sol. Une des signataires s'appelle Justine Renard, elle est enseignante en écologie, en géosciences et en transition des territoires. Elle a été justement présente à la manifestation et a pris la parole devant la mairie en conclusion de cette manif pour rappeler les enjeux face au changement climatique. Voici ce qu'elle dit. Convertir 160 hectares en green, c'est le nom de la pelouse d'un golf, c'est exclure les êtres vivants, les pollinisateurs dont nous dépendons de manière vitale. Et ce alors que l'abondance des insectes a chuté de 80% dans certaines régions agricoles, notamment à cause de l'usage des pesticides. C'est aussi, ajoute-t-elle, réduire les chances d'assurer la sécurité alimentaire du territoire et de réduire les émissions de nos chaînes d'approvisionnement. Les émissions de CO2 des chaînes d'approvisionnement. Accaparer ces terres, cette eau pour un usage de loisirs destiné à une population privilégiée est ainsi à ses yeux une aberration dans un département parmi les plus pauvres de France. Plusieurs recours, je vous l'ai dit, ont été déposés par ses opposants au golf, notamment auprès du ministre de la Transition écologique, pour lui demander de désavouer le préfet du département sur cette question. Eh bien, celui-ci a reconduit la déclaration d'utilité publique du projet en novembre dernier, ce qui a permis aux travaux de démarrer. À côté, dans le département voisin de l'Aude, le représentant de l'État vient par contre de mettre un coup d'arrêt à un autre projet de méga-golf situé dans la zone de la Montagne Noire. Et là, le projet a été qualifié d'un autre temps.
De toute façon, faut pas les écouter, les pécores, ils sont jamais contents.
Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là.
Ouais, c'est pas faux.
Et on termine avec quelques nouvelles du carnaval indépendant de la Plaine. On est à Marseille, il a eu lieu ce dimanche 17 mars, mais un petit peu tout le week-end aussi. C'était la 24e édition de cet événement auto-organisé et indépendant, avec là encore presque 10 000 personnes comptabilisées. Un événement qui a donc de plus en plus de succès et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Cette année, la cible principale des manifestants, des déguisements et des chars, c'était les Jeux Olympiques, une thématique qui a été reprise sur tout l'événement. Certaines épreuves vont en effet se dérouler dans la ville de Marseille. Et on a aussi pointé du doigt la surveillance policière liée au JO qui était mise à l'honneur, ainsi que les inégalités sociales qui se creusent toujours et que ces événements mondiaux, que ce soit des Jeux Olympiques ou des capitales culturelles ou des grandes coupes mondiales, ne viennent jamais améliorer, et surtout au niveau de l'immobilier. Le journal Libération y était avec notamment un petit reportage photo que j'ai pu consulter. On y voit une foule colorée autant que revendicative des sportifs endimanchés, interviewés par les journalistes de Canal Plouc Sport, un troupeau de moutons, un char cercueil pour Gérard Depardieu, des cafards géants qui rappellent l'insalubrité des logements de la ville, et surtout toute une foule de gens déguisés avec ce qui leur tombe sous la main, et notamment des casques de ski parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver la gueule enfarinée. En tout cas, la flamme olympique doit arriver normalement le 8 mai à Marseille. Visiblement, il y aura peut-être du monde pour l'attendre, ou pour l'éteindre, pour l'accueillir en tout cas. Le samedi qui a précédé ce carnaval de la Plaine, des courses de radeaux avaient été organisées d'ailleurs dans la rade du Mucem, sous le nom « Course des radeaux pour l'arrivée de la flemme olympique ». On a pu lire aussi « Le J, c'est le S, les JO, c'est la S ». Petit slogan dédicace à Jules, et qu'il a aussi pointe l'incohérence d'organiser des Jeux Olympiques dans la ville. Des concerts sauvages ont lieu le samedi, se sont tenus toute la journée et la soirée sur cette place Jean Jaurès, une non-organisation donc qui est très bien rodée. On pouvait aussi voir sur les toits des immeubles bordant toute la plaine des banderoles déployées avec des messages de soutien notamment à la Palestine ou contre les prix, la hausse des prix de l'immobilier ou contre les violences policières. Il y a même eu des soutiens à Aya Nakamura, comme quoi c'est assez réactif. La préfecture, de son côté, avait posé, c'était une première, un couvre-feu à 18h30. 18h30, normalement, c'est l'heure approximative du grand feu, donc le moment, le climax de la journée. Bon, vu le nombre de participants, ils ne se sont pas pointés à ce temps-là pour essayer de vider la place. Et d'ailleurs, une grande partie des carnavaliers, carnavalières, a fini par quitter les lieux dans ces eaux-là. Bon, faut dire qu'on est dimanche soir et qu'il y en a qui travaillent le lundi. Mais quand même, quelques milliers de personnes sont restées, hein, des irréductibles, qui ont tenu à rester sur la plaine plus tard, autour du feu, et qui ont été évacués non sans difficulté par la police avec gaz lacrymogène, lance à eau pour essayer d'éteindre les dernières braises, et quelques échanges donc entre lacrymogène, canettes et autres cotillons. Voilà, avant que finalement, sur les coups de minuit, visiblement, les dernières braises n'aient été finies d'être éteintes. Il y a eu quelques courses-poursuites aussi dans les ruelles adjacentes. Voilà ce qu'on pouvait en dire. C'est l'heure de finir les nouvelles du monde. On est à peu près ponctuel pour une fois. On va essayer de pas déborder. Je vous dis bon après-midi ou bonne soirée. Et puis à très vite pour d'autres aventures.
Monsieur des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, bon, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas. Mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas. Interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.